Vous avez déjà entendu beaucoup de choses en fait, pendant une semaine ou pendant 15 jours. Bien suffisamment d'une certaine manière. Il y a quelques éléments que j'aimerais évoquer ce soir. Et c'est pas dit qu'ils qu'ils s'intègrent dans quelque chose de cohérent, mais quelques points de réflexion qui me semblent pourraient être enrichissants. Tout d'abord, vers la fin d'une retraite, souvent les gens demandent comment est-ce qu'on peut continuer la pratique dans la vie quotidienne. C'est vraiment une question qui surgit extrêmement souvent, qu'on comprend bien. Et là, on se rend compte que, en général, les gens veulent dire comment est-ce qu'on peut continuer la pratique de la méditation dans la vie quotidienne. Comme si la méditation était formelle, comme on l'a fait assis en silence, comme si c'était l'enjeu de ce qu'on fait là. Donc je veux continuer dans la vie quotidienne, pouvoir fermer les yeux, être assis immobile. Comme si, dans le fond, la richesse de ce qu'on faisait ici se trouvait dans cette position particulière. Les difficultés dans la vie quotidienne, je m'arrête, je ferme les yeux, je mets mes mains comme ceci, et voilà, je vais essayer de trouver une solution. Moi j'ai un chemin spirituel, il va m'aider. Oui. Et il y a évidemment quelque chose d'assez réducteur dans une approche de ce type-là où on réduirait le chemin spirituel à la pratique de la méditation assise. Bon, on peut sourire, c'est naïf, mais en fait c'est quand même quelque chose, un travers dans lequel on tombe très facilement. Quelles que soient les années de pratique, ce travers, on peut y tomber très facilement. Donc essayer de réfléchir et de se dire dans le fond, qu'est-ce qui fait le sens de ce que nous pratiquons ici? Non pas la forme, on se rend bien compte qu'on va changer de forme, mais qu'est-ce qui fait la vie de ce que nous pratiquons ici, dans l'assise, dans la marche et dans la transition? On peut se rendre compte que ce n'est pas non plus simplement le calme, la tranquillité qui peut surgir grâce à une position immobile, à peu d'activité. On l'a déjà dit, je crois, à nombreuses reprises, ce n'est pas ça l'enjeu, c'est la liberté. Mais la liberté ne veut pas nécessairement dire être assis les yeux fermés, immobile. Si tel était le cas, alors c'est une liberté très conditionnée. On peut juste être libre quand on a les yeux fermés, immobiles, autrement, on pourrait aspirer, avoir des longues périodes où on peut rester assis, immobile, les yeux fermés. Donc se demander quand même qu'est-ce qui fait l'esprit, le sens de ce que nous pratiquons ici. Donc on voit bien que c'est la liberté, et la liberté qui est à explorer dans toutes les situations. Ici on l'explore, plus ou moins, dans la méditation, en explorant comment on peut être pris par des schémas mentaux, etc., des réactions, on a exploré un petit peu ceci, et puis dans la vie quotidienne, évidemment, cette liberté est à explorer dans le rapport à autrui. Si dans la vie quotidienne, pour avoir un petit peu de la liberté qu'on aurait pu éprouver dans la retraite, il s'agirait de se couper des autres, alors ça poserait un problème. On aurait l'impression que l'idéal du cheminement spirituel serait finalement de se retirer dans la solitude sans personne pour nous embêter. Sans qu'on n'embête personne non plus. Donc il est évidemment dans la vie quotidienne un espace extraordinaire d'exploration pour nous. Quel rapport à autrui? Et dans ce rapport à autrui, on trouve aussi certains éléments qu'on a rencontrés dans notre pratique assise immobile, seul, avec un groupe de personnes aussi en silence, qui n'est pas tout à fait seul. Il y a aussi des interactions enrichissantes, mais ce n'est pas comme être dans la vie quotidienne où il y a beaucoup d'interactions. De quelle manière, dans le rapport à autrui, on peut découvrir un espace de liberté ou au contraire être complètement contraint, enfermé dans ce rapport à autrui, qui est à explorer, non pas en fermant les yeux en venant la respiration, mais qui est à explorer dans le contact à autrui, dans ce dialogue, dans la rencontre. Mais cette rencontre avec les autres, elle n'est pas si simple. Elle n'est pas si simple. Je ne vais pas dire tout le monde est extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui font exception quand même. Puis quelquefois, il y en a beaucoup qui font exception. Tout le monde est extraordinaire. Donc de se rendre compte, dans le fond, qui est-ce qui fait que notre rapport à autrui est difficile ? Difficile dans le sens qu'il est contraint et qu'il n'est pas un rapport, par exemple, de bienveillance, de compassion, de joie sympathique ou même d'équanimité. Qu'est-ce qui fait que notre rapport, il est beaucoup plus compliqué que ceci ? Même si, dans la retraite, on a pu explorer ces aspects extrêmement positifs du rapport à soi-même, du rapport à autrui, mais qu'est-ce qui fait dans le quotidien, qu'est-ce qui fait obstacle à ceci ? Qui fait que même si on a des bonnes intentions, on se rend compte que très souvent, on rencontre des difficultés. Dans l'abstraction, ça va bien, mais quand il y a lui ou elle en face de nous, c'est plus difficile. Dans les textes, on trouve des stratégies pour aider ceci, pour aider le rapport à autrui. C'est intéressant. Dans la tradition bouddhique, on donne plein d'éléments. Dans la pratique de metta, voir un peu comme une mère voit son enfant, voir les autres de cette manière-là. Chez Nagarjuna, grand penseur indien aussi du bouddhisme, c'est de voir comme sa mère. Quelque chose que les Tibétains ont beaucoup repris. Chez Shantarakshita, c'est de voir comme un ami. Chez Shantideva, c'est de voir comme soi-même. Vous voyez pourquoi toutes ces réflexions, je vous cite simplement ici, mais alors après il y a beaucoup de réflexions pour essayer de pratiquer ceci, de voir vraiment les autres comme sa mère ou les autres comme son enfant ou comme un ami ou comme soi-même chez Shantideva par exemple, dans des pratiques extrêmement sophistiquées et très précises. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces réflexions-là ? C'est bien parce que c'est pas si simple d'être face à l'autre et puis de le reconnaître. Donc, si il y a ces exercices spirituels, c'est bien que ce n'est pas aussi simple de reconnaître l'autre et d'avoir ce rapport ouvert. C'est bien qu'il y a des choses qui viennent, dans le fond, s'intercaler et qui empêchent ce contact simple à l'autre, ce contact simple qui permettrait à la compassion, à la bienveillance, à la sympathie de surgir. On pourrait dire qui permettrait de surgir de manière un peu spontanée. On n'est pas obligé de se forcer. Voilà. Puissent-ils être tous heureux, quelque chose qui est dans le rapport. Pas une critique de méta, c'est juste de la rendre spontanée. Puisque dans la pratique de méta, on peut enseigner cette manière de voir tout le monde comme une mère voit son enfant. Donc il y a des rapports à autrui qui font que ceci n'est pas aussi spontané, aussi simple qu'on pourrait le souhaiter. Dans le fond, comment est-ce qu'on rate la rencontre à autrui ? Qu'est-ce qui fait que finalement, qu'on n'était pas au rendez-vous, peut-être les deux n'étaient pas au rendez-vous ? Comment est-ce qu'on fait qu'on ne voit pas l'autre, qu'on ne le reconnaît pas ? on est là face à l'autre et on ne le reconnaît pas. Où il est transparent. Cette transparence des autres est assez extraordinaire. Ceux qui ont ce pouvoir magique de se rendre transparent, c'est les mendiants. C'est extraordinaire comment les gens passent à côté sans les voir. Pas qu'ils essaient d'être invisibles, ils essaient plutôt d'être vus, mais enfin, leur position fait que, facilement, quand on passe devant, on peut ne pas les voir. On voit à travers, ou alors on regarde ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, sur le trottoir, j'ai envie de regarder la vitrine en face. Juste, c'est 3-4 mètres, alors que je suis à la hauteur d'un mendiant ou d'une mendiante. Vous voyez, là, j'évite. J'évite cette rencontre qui pourrait peut-être me questionner. Une personne qui est là, au bord de la route, et qui me dit peut-être, ben voilà, j'ai besoin de toi. Pas pour vivre dans le luxe, mais j'ai besoin de toi pour manger. On l'évite là en regardant ailleurs, en évitant, ou alors on l'évite en d'autres manières. La manière la plus efficace, c'est de transformer les personnes en choses. C'est pas une personne, c'est une chose. Donc à ce moment-là, parce qu'on l'a pas vu, on n'a rien besoin de faire. Comment est-ce qu'on chosifie les personnes? Bon, vous faites pas de soucis, on est tous des pros là-dedans, donc je vais pas vous apprendre quelque chose. Simplement, en réduisant l'autre personne à une catégorie. Un drogué. Alcoolique. Alors tout d'un coup, c'est plus une personne, c'est un drogué, un alcoolique. Dès que on met la personne dans une catégorie, à ce moment-là, on n'a plus affaire à cette personne-là, on a affaire à une catégorie. Alors, il y a beaucoup de catégories. Il y a les juifs, il y a les musulmans, les infidèles, on a les étrangers. Enfin, chacun peut avoir ses catégories. Donc, La manière dont on réduit l'autre à une chose par ces catégories, à nouveau, elles peuvent être très compliquées, très subtiles, c'est une manière de saper la rencontre. On ne peut pas rencontrer ces catégories. Avec des justifications. Si je donne à cet alcoolique, il va encore aller boire. J'ai réglé le compte assez rapidement, d'ailleurs. Ou bien, on ne peut pas donner à tout le monde. Donc je donne à personne, c'est plus simple. Ça évite de me poser la question. On a une manière assez peu élégante de régler ces choses-là. S'il y avait des caméras cachées, parfois quand on passe, je suis pas sûr qu'on serait toujours très fiers. Donc la manière d'éviter cette rencontre, c'est justement de chosifier l'autre, et voilà pourquoi on a ces différentes réflexions, voir comme sa mère, voir comme un enfant, qui sont des tentatives pour qu'on rétablisse le lien avec l'autre personne, qu'on se rend compte, tiens, là il y a un autre être humain. En ce qui concerne l'alcoolisme, un psychiatre qui a passé des semaines dans les rues à Paris avec les sans-abri pour voir ce que c'était, donc habillé lui en sans-abri, vivant comme les sans-abri, il disait, en général, les gens sont dans la rue parce que c'était des alcooliques, ou alors, c'est tellement dur la vie dans la rue que finalement, ils boivent de l'alcool avec tous les autres. Donc de dire, non, je vais donner parce qu'ils vont boire, il dit, c'est beaucoup trop tard. C'est absurde, quand quelqu'un a besoin de ceci, c'est pas le moment de donner une leçon de moralité, donc... C'est régler la question un petit peu trop vite. Quoi. Je ne suis pas spécialiste de ces problématiques, mais ce que je veux évoquer ici, c'est la manière dont on règle le problème trop rapidement. Et lorsqu'on chosifie l'autre, soi-même, on s'est réduit à l'état de choses. On ne peut pas rester dans sa propre humanité et puis chosifier l'autre, c'est pas possible. Donc dans ce rapport-là, c'est un rapport de Dieu. Deux êtres humains qui se rencontrent ont disparu. Je reviens sur une phrase que dit ce psychiatre quand il mendiait dans les rues. Il parle de cette manière d'être invisible. Il dit, quelle que soit la technique adoptée, il parle de mendier dans le métro. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez... un univers assez fermé. Il dit, quelle que soit la technique adoptée, il faut affronter les insultes et les mots méprisantes devant les regards qui se détournent. Il faut, pour continuer d'exister, lutter contre le sentiment insidieux d'être devenu invisible. Manière de n'exister plus. Vous vous rendez compte, c'est dans le fond une sorte de négation de sa propre existence. Il y a là non seulement quelque chose qui est de l'ordre du manque de générosité, mais de la destruction de l'autre. Il n'existe pas. C'est terrible. C'est une immense responsabilité. J'ai déjà raconté cette histoire une deux fois, mais je la trouve assez édifiante, de cette amie qui était à New York et qui a garé sa voiture à un endroit de New York. Il était avec son fils et puis est venu quelqu'un qui n'était pas très bien en point, le mendier, puis il lui a dit qu'il avait toutes les misères du monde, voilà, ses parents étaient malades, il fallait un billet pour le train, mais lui, il n'avait pas d'argent pour ses médicaments, enfin, il en a rajouté, c'était dramatique. Et puis, alors qu'il s'apprêtait à donner l'argent, son fils a dit, mais non, mais il te raconte peut-être des mensonges. Et le père, il a dit, j'espère qu'il me raconte des mensonges. Si en plus, il faut que les gens soient vraiment malades pour qu'on leur donne l'argent. Donc, on rate quelquefois le point. Voilà, faudrait qu'il soit malade, le pauvre, faut qu'il soit vraiment mal en point, il en rajoute quelques-uns, donc alors je vais lui donner. Voilà. Mais si on peut le guérir comme ceci en un instant parce qu'il a rencontré des mensonges, tant mieux. Donc cette manière de chosifier, donc il est extrêmement important d'être conscient parce que c'est quand même assez grave en tant qu'être humain. D'ignorer l'existence d'un autre être humain, en le transformant comme ça en statue de sel ou je ne sais quoi. Non seulement, évidemment, ça barre la route aux sentiments positifs tels que la bienveillance, la compassion et la sympathie, mais cette manière de réduire l'autre à une catégorie, à des objets, c'est évidemment la stratégie de tous les génocides. C'est dramatique. Quand on a réduit les autres à des objets, alors maintenant tout est permis. Pas citer les exemples, ils sont trop nombreux d'ailleurs, trop dramatiques pour en faire l'inventaire, mais il y a une sorte de compréhension ou d'intelligence intuitive sur cette manière assez dramatique de détruire l'autre. Vous voyez, on l'a détruit comme j'expliquais, on l'a détruit en ne le reconnaissant pas en tant qu'être humain, alors après on finit le travail. Mais c'est important de ne pas le commencer. Et chaque fois qu'on réduit une autre personne à une chose, on a commencé le travail. Je vais vous citer quelques phrases de Simone Weil, parce que je trouve que dans ces réflexions-là, elle est simplement extraordinaire. Une vision tellement sensible de ce qui se passe. Voilà ce qu'elle dit. L'égoïste dépouille l'autre de son humanité et le place du côté des choses. Il représente, l'égoïsme, l'une des plus graves injustices. Même le tribunal commet parfois cette injustice en réduisant le condamné à un délit, un voleur, un délinquant, l'enfermant dans le cycle de la délinquance. Même la justice, quand elle enlève l'humanité du condamné, comment est-ce qu'elle veut ensuite le réhabiliter alors qu'elle a enlevé son humanité ? Donc ceci est quand même important dans nos rapports humains. Et à nouveau, quand on réduit l'autre au niveau de choses, on est soi-même réduit au niveau de choses. Il n'y a pas de rencontre possible. Et c'est assez compliqué. Simone Weil explique ça très bien. Elle dit que, voilà, je vous cite à nouveau Simone Weil, le malheur est avant tout anonyme, il prive ce qu'il prend de leur personnalité et en fait des choses. Ce qui veut dire que c'est le malheur même a tendance à ce que les personnes vont elles-mêmes se mettre à côté de la société parce que c'est trop dur. Donc ce qu'elle explique très bien, c'est que quand on veut rétablir ce rapport à une autre personne, il ne s'agit pas simplement de donner quelque chose, mais il s'agit vraiment de reconnaître l'autre dans son humanité. À ce moment-là, ce qu'on lui donne, ce n'est pas une piécette ou à manger, on lui restaure son humanité. Et c'est ça qui est important. Non pas tellement le... ce qui est donné matériellement peut évidemment être important, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand on peut avoir un rapport d'humanité à l'autre, alors sa propre humanité, elle est aussi éveillée. Là, on a une rencontre de deux humains. Je me rappelle une expérience à Avignon que j'ai eue il y a quelques années. Alors, on se promenait avec Patricia un matin, milieu de matinée, on est arrivé à la hauteur de deux mendiants. Peut-être déjà un petit peu bu, et puis alors voilà, ils ont dit une piécette. Alors je me suis arrêté pour leur donner, et tout d'un coup, là, ils m'ont regardé, les deux, un regard complètement clair, une qualité de présence extraordinaire. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une rencontre qui était réelle, et pour eux, c'était certainement autre chose que simplement la piécette, peut-être d'ailleurs pour aller acheter un peu de vin après, mais c'était pas ça, c'était la rencontre qui s'est passée. Et là, il y a une liberté, il n'y a plus la contrainte qui est faite quand on évite, quand on veut justifier, etc. Et il y a toujours, dans ces cas-là, il y a toujours cette possibilité d'une rencontre. Si une personne était, je ne sais pas, évidemment, trop perdue par la drogue ou l'alcool, alors la rencontre n'a plus lieu. C'est évident qu'on peut comprendre ceci, ce n'est pas la meilleure situation, mais en général, il y a cette rencontre extraordinaire avec une autre personne, parce que il y a quelque chose de totalement gratuit dans ce don. Si vous allez payer la caissière d'un grand magasin, après on vous dira merci beaucoup, c'est tellement gentil de venir payer. Donc il y a là quelque chose, parce qu'il n'y a aucune obligation de donner. Et je crois que l'autre le sent parfaitement. Maintenant, peut-être que si j'avais un schéma spirituel qui dit, ben voilà, il faut chaque jour que je donne 5 fois et autres. Je ne suis pas sûr que ça gagnerait la même valeur. C'est parce que dans le fond, cet acte est complètement gratuit. Il n'y a aucune obligation, j'accumule rien. Dieu ne va pas me le rendre au centuple. Il a d'autres choses à faire. Donc à ce moment-là, cette gratuité fait qu'il y a cette rencontre. Et j'aime mieux qu'on me rende compte, qu'on ne me rende pas au centuple, mais que je puisse rencontrer cette personne. Donc cette pratique, ici c'est la générosité dans un cadre particulier, il y a beaucoup d'occasions de la générosité, cadre professionnel, familial, etc. Mais on peut dire que c'est toujours trouver où se trouve ma liberté dans cette action-là. Ah, je suis trop fatigué. On pourrait comprendre. Mais alors là, ça veut dire que ma fatigue, bon, imaginons pas quel extrême, que ma fatigue, c'est elle qui décide de ce que je vais faire. Oui, je suis fatigué. Est-ce que je peux malgré tout avoir la liberté de choisir? Peut-être que je vais quand même faire ça, donner un coup de main à cet ami ou à ce parent. Je me rappelle une expérience toute petite, mais qui m'avait frappé. On avait une rencontre, et puis à la fin, voilà, qui veut bien balayer la salle, voyez, bon, vous connaissez, d'ailleurs vous verrez ça. Eh bien, voilà, évidemment tout le monde, c'était tard le soir, fallait prendre le bus, tout le monde avait des bonnes raisons de, ma foi, je suis désolé, mais je peux pas, là mon poisson rouge m'attend, enfin tout ça, c'est important. Et moi aussi, j'étais fatigué, fallait que je prenne le bus, alors je me suis dit, ouais, bon, je peux pas dans le fond. Et là, je me suis rendu compte que cette... Ceci, c'est le fait de me mettre dans cette impossibilité, m'enlevait ma liberté. Je peux plus choisir librement. Parce que c'est ça, c'est, ah voilà, je suis fatigué, il faut que je rentre, et que c'est finalement ça qui décidait pour moi. Du coup, j'ai décidé de rester, évidemment toujours quelques amis qui sont là aussi, et ça se passe très bien, mais de reconnaître que cette manière de réagir, tout d'abord, comme pour pour se protéger, etc. C'était dans le fond s'enfermer. Sans évidemment enlever la possibilité qu'il y a des fois, on est trop fatigué. C'est judicieux de se reposer, c'est pas ce que je veux dire ici. Vous voyez, on pourrait faire la méditation en marchant, qui est une bonne chose, évidemment. Mais si je passe devant un mendiant en étant tellement conscient de ce qui se passe dans mes doigts de pied, etc., etc. Voilà, lui, il voit passer quelqu'un comme ça, qui est très présent. Mais voilà, je suis désolé, moi, je pratique la méditation. Je suis sur un chemin spirituel. C'est des caricatures, mais malheureusement, on peut se reconnaître assez souvent là-dedans. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas me prononcer à votre sujet, mais comment tout d'un coup, on oublie ce qui fait l'essentiel. Croyant que le chemin spirituel est là, juste à côté, alors qu'il est exactement devant nous dans cette rencontre. Donc, générosité, qui est ce rapport aux autres, dans la moralité, qui est le deuxième aspect important, la moralité, eh bien, c'est évidemment le lâcher prise à l'envie de nuire aux autres. Générosité, c'était lâcher prise à l'attachement, ici lâcher prise à l'envie de nuire aux autres, mais c'est un peu plus complexe, comme je l'ai décrit, lorsqu'on réduit quelqu'un à une chose, on ne reconnaît pas son humanité, il y a quelque chose de l'ordre de la destruction de l'autre. C'est vous voyez, chosifier, alors voilà, c'est un terme que j'utilise beaucoup, mais combien on utilise ceci en politique, dans tout, voilà, on met un terme sur les gens, et puis tout d'un coup, ça y est, le compte est réglé. Oh, lui, c'est un, elle, c'est un, voilà. Tout d'un coup, on a différents slogans à différentes époques qui fait que la discussion est close. Lui ou elle, il est ça. Voilà, donc, c'était les communistes, bon, aux États-Unis, ils ont beaucoup connu ceci, c'était, l'incident était clos, quoi, communiste. Combien de personnes aux États-Unis ont dû souffrir gravement. Je n'étais peut-être pas du tout communiste, d'ailleurs. Je ne suis pas contre les communistes, mais enfin, même sans l'être, cette étiquette qu'on avait mis, chosifier ceci, eh bien, cette personne-là, tout d'un coup, avait de graves ennuis. Pendant l'histoire, les hérétiques. Ben, les hérétiques, ce n'est pas bon avoir cette étiquette. C'était très difficile de se défendre de cette étiquette. Vous voyez, on vous torturait, puis si vous arriviez juste à la torture, ça veut dire que vous n'étiez pas un hérétique. Mais de toute façon, vous mouriez sous la torture, donc après, l'enjeu était fini, dans la mesure où on avait mis cette étiquette. Alors bon, on n'a pas des étiquettes aussi flagrantes à l'heure actuelle, mais les petites qu'on peut placer comme ça, sur les autres, elles sont aussi extrêmement destructrices. L'air de rien, comme ça. Petite phrase comme ceci, tout d'un coup, l'autre a été détruit, donc. Enfin, si vous vous rappelez, en politique française, il y a quelques années, un politicien avait été conduit au suicide, il avait été tellement calomnié que ça avait été impossible. Vous vous rendez compte, on a, comme si tout d'un coup un politicien s'était blindé, ça ne souffre pas. Alors on avait dit n'importe quoi et le pauvre homme a été complètement désespéré. Donc le fait de ne pas nuire aux autres, lâcher prise à l'intention de nuire, c'est pas seulement de les frapper, bon, il ne faut pas les frapper, c'est vrai, c'est, en général, c'est mieux pas, mais c'est quand même à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus, j'allais dire perfide, mais l'air de rien. Je pense qu'on pourrait la prendre comme ligne directrice. Est-ce que la manière dont on a de parler d'une autre personne lui enlève son humanité ? La fixant dans une catégorie. Ce qui fait que finalement elle est enfermée là-dedans. Et puis on pourra lui faire ce qu'on veut, elle est devenue un objet. Je reviens sur Simone Weil, elle dit « Reconnaître que celui qui a faim et soif est un être humain comme moi-même, cela suffit, le reste suit naturellement. » Voilà pourquoi je disais pour les pratiques de Metta et autres, dans la mesure où il y a un rapport juste, ce qui est aussi enseigné, à ce moment-là, cette méta qui est développée, alors elle trouve vraiment un chemin d'expression extrêmement, extrêmement profond. Reconnaître que celui qui a faim soit être un humain comme moi-même, cela suffit. C'est dans la reconnaissance. Parce que s'il y a cette reconnaissance, moi-même dans mon humanité, à ce moment-là, naturellement, on est concerné. une autre phrase, parce qu'elles sont tellement, tellement riches, ces phrases de Simone Weil. Celui qui traite en égo ceux que le rapport des forces met loin au-dessous de lui, leur fait véritablement le don d'une qualité d'être humain dont le sort les privait. Ce qu'elle veut dire ici, c'est que lorsque, malgré les circonstances ou les conditions sociales, il ferait qu'on aurait affaire à une personne qui serait plus basse, hein, ici c'est pas un sentiment de valeur, c'est plutôt une sorte de position, celui qui reconnaîtrait cette personne comme complètement égale, à ce moment-là lui restaure quelque chose qui est extrêmement important. On pourrait dire que ce don-là, il est plus important à nouveau qu'un don matériel, même s'il doit être fait parfois. Donc ce qui est en jeu, c'est un rapport d'humanité, de restaurer l'humanité de chacun et non pas simplement des biens matériels. Et cette rencontre, vous voyez, quand elle n'est pas réduite à une fragmentation en réduisant l'autre à ceci ou cela, c'est toujours la totalité d'un être qui est rencontrée par la totalité d'un être. C'est jamais quelque chose de fragmenté. On a l'impression tout d'un coup de ces deux présences, face à face, totale, pleine. Je donne une phrase de Martin Buber qui exprime ceci aussi, ce sont des choses qui l'ont beaucoup intéressé. Il dit, hein, un acte total est la rencontre par laquelle l'autre est affirmé dans la totalité de son être. Je le reconnais dans sa totalité. J'ai pas besoin d'excuses, dans le fond, pour rencontrer cette personne en disant oui mais quand même voilà il est mal en point mais peut-être que ceci peut-être que cela non je reconnais cette humanité. Donc reconnaître ce qu'il y a d'humain en l'autre, mais il y a aussi quelque chose, cette réflexion donc sur ce qu'il y a de commun dans l'humanité, c'était quelque chose que je trouvais extrêmement riche. Et puis tout d'un coup j'ai lu un petit récit de la tradition hassidique. Et j'ai trouvé qu'il y avait là une remarque qui était particulièrement intéressante, ce maître de la tradition hassidique. Il dit, avec chaque personne, quelque chose de nouveau est placé dans le monde. Quelque chose d'unique qui n'a jamais existé auparavant. Vous voyez, donc il n'y a pas seulement l'humanité de l'autre dans quelque chose de général, mais il y a aussi ce quelque chose de très spécial que cette personne représente, puisqu'il n'y a personne d'équivalent dans le monde que cette personne-là. Quand elle est venue au monde, quelque chose de neuf est arrivé. Donc des champs d'exploration dans la vie quotidienne, vous voyez, c'est au-delà simplement de vouloir pratiquer l'assise de manière formelle, à nouveau ça peut être judicieux, parce qu'il faut quand même être présent pour ce qui se passe. Si je suis distrait, je vais être dans mes pensées, je vais réagir, donc il y a bien une qualité de présence qui va permettre à ceci de se passer. Sans cette qualité de présence, si je suis distrait, préoccupé, je vais passer à côté de cette opportunité. Donc cette tri-pratique qu'on appelle les trois piliers, la générosité, dont j'ai parlé un peu, la moralité dans le fait de, je crois, de ce respect total de l'humanité de l'autre, parce que c'est lorsque ceci n'est pas respecté que tous les abus peuvent surgir. Et le troisième pilier, c'est la méditation. Et aussi, si on veut résumer qu'est-ce que la méditation, je cite ici les commentaires, pourquoi est-ce que nous méditons? Afin de ne pas saisir. Toute la méditation, la manière de pratiquer, assise en silence, en marchant, etc., la structure de nos retraites, tout ceci n'a dans le fond qu'un objectif, c'est de ne pas saisir. Bon, évidemment, on peut approfondir. Qu'est-ce que veut dire ne pas saisir? C'est pas ce que je veux évoquer ici, mais c'est le sens de la méditation, c'est de ne pas saisir. De ne pas saisir, c'est aussi saisir par un concept. On juge, on évalue, on met aussi dans les points. Et là, on peut dire que dans notre vie quotidienne, la qualité de présence aide aussi à être dans cette qualité-là, d'explorer cet aspect-là. Donc, je ne veux pas m'étendre sur cet aspect, puisque nous l'avons quand même exploré pendant une semaine ou pendant 15 jours. Donc il y a la manière dont les trois piliers sont formulés est un peu restrictive, puisque c'est le lâcher prise à l'attachement en ce qui concerne la générosité, lâcher prise à désir de nuire en ce qui concerne la moralité, lâcher prise à la confusion, concept en ce qui concerne la méditation. Mais vous voyez, c'est lâcher prise, c'est lâcher prise. Et dans le fond, ça manque un petit peu d'engagement. La tradition tardive a développé beaucoup de réflexions qui invitent à l'engagement, ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, de s'engager envers les autres. Quand on connaît toutes les manifestations possibles, mais ici j'aimerais parler de l'engagement envers la nature, qui est peu évoqué dans le bouddhisme pour des raisons bien simples. Au temps du Bouddha, les communautés humaines étaient très petites, la nature était beaucoup plus vaste, on pourrait dire dans le rapport, la nature était dominante. Toutes les petites villes qui avaient tendance à être envahies par la nature. Maintenant, évidemment, c'est complètement renversé. C'est la nature qui est extrêmement fragile et l'être humain qui est évidemment tout dominant. Ce qui fait naître le besoin d'une considération pour la nature, le rapport à la nature, le fait de prendre soin de la nature. Là, il me semble que, évidemment, émettre des règles, des taxes, etc., c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. C'est un rapport, on essaie de limiter, dans le fond, on ralentit un petit peu, je ne suis même pas sûr, mais il y a quelque chose d'autre qui manque dans cette manière d'essayer de gérer le contact à la nature, qu'on pourrait explorer aussi depuis l'espace qu'on peut créer par la qualité de présence. Donc déjà changer le rapport à la nature, qui est un rapport en général aussi d'une certaine manière de chosification, d'exploitation. Les forêts, on veut les exploiter comme ceci ou comme cela. Parler avec un paysan de la vallée où je vais des fois, en parlant des sapins, alors il y a des très beaux sapins dans les prairies, avec des grandes branches comme ceci, très, très riches, et puis il y a ceux qui sont dans la forêt, alors ils sont tout droits, mais ils sont assez rachitiques comme ceci, alors moi je dis, wow, c'est tellement beau ces arbres-là, ils me disent, mais ils sont inutiles parce qu'il y a trop de branches, on ne fait pas des belles planches, alors que les autres qui sont dans la forêt comme ça, ils n'ont pas pu sortir leurs bras, eux on peut les utiliser. Ils parlaient en bûcheron. Moi, je disais, oh, les autres sont tellement beaux, ils ont de la place. Lui, c'était un bûcheron. Donc, il voyait. Maintenant, je ne crédite pas les bûcherons. Il a sa vie de bûcheron. Donc, évidemment, il a besoin de couper les arbres. Mais le rapport était un rapport ici d'exploitant. Pas un rapport. Mais un peu surpris. Les gens de la montagne, de la vallée, n'avaient pas un rapport à la nature qui était un rapport de fascination. C'était un rapport, comment est-ce qu'on vit la nature? Préoccupation autre, peut-être bien de la garder propre, etc. Mais quelque chose d'autre me semblait manquer, me semble toujours manquer. D'ailleurs. Donc, lorsqu'on sort de ce rapport d'exploitation, voir les océans comme source de nourriture, les glaciers, source d'eau potable, etc. On a l'impression que tout n'existe pour autre chose. Les océans, c'est pour les petits poissons, pas d'autres, ou les grands. Il n'y a pas d'autres manières d'exister pour l'océan que ceci. Donc, il me semble intéressant d'explorer un rapport à la nature qui serait un rapport pas simplement d'exploitant. Et quand je suis exploitant, je suis aussi moi-même simplement un outil. Mais peut-être de trouver un rapport beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissant, qui me nourrirait aussi spirituellement et pas seulement matériellement. Et ces rapports à la nature qui me semblent extrêmement riches, ils existent dans certaines traditions. On peut dire que toutes les traditions animistes ont un rapport à la nature extrêmement riche. Où la nature n'est pas vue comme comme simplement ressource. Même si ces traditions animistes sont souvent extrêmement méprisées. Ouais, on croit que l'animiste va mettre des âmes comme ça dans les arbres, et puis voilà, c'est tellement vite réglé. Mépris extrêmement dommage, parce que on passe à côté d'un sens, d'un contact à la nature tellement riche, même s'il est exprimé en termes qui sont propres à l'animisme. C'est pas en termes logiques, puisque c'est un rapport qui n'est pas un rapport logique, c'est un rapport, on pourrait dire, beaucoup plus intuitif. On remarque tous les personnes qui ont étudié un peu l'animisme, combien il peut y avoir d'aspects scientifiques très précis, mais ils semblent très peu avoir goûté ce que c'est. Et très peu peuvent rendre compte, là il y a quelque chose d'intéressant, de fascinant. Cette manière de voir dans la nature, aussi une dimension spirituelle, non pas des âmes qui vont, les âmes des personnes qui vont se cacher dans les âmes, c'est quand même un petit peu naïf, de croire que toutes les populations sont aussi naïves que ceci. Donc la manière en général dont ceci, ces traditions sont maltraitées. Les films sur le vaudou, c'est une catastrophe. On a l'impression que c'est que de la magie noire, etc. Et on passe à côté d'une richesse immense. Donc là, c'est des caricatures. Hollywood a commencé il y a longtemps, puis on continue. Et ces caricatures sont graves. Parce qu'on se rend compte que toutes les traditions animistes, que ce soit en Afrique, aux Antilles, en Amérique du Sud, elles tendent à disparaître. Les missionnaires, que ce soit musulmans ou chrétiens, eh bien voilà, ils gagnent du terrain. C'est inadmissible de laisser des gens qui auraient une vision différente, qui ont le génie d'un contact avec la nature différent. Mais peut-être qu'on peut apprendre quelque chose de ces traditions-là. Justement, un rapport qui est un rapport qui n'est pas rationnel, qui n'est pas aussi un rapport d'exploitation. Je me rappelle une expérience au Brésil avec un chaman. Donc dans les traditions brésiliennes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, les éléments de la nature sont perçus spirituellement sous l'aspect de ce qu'on appelle les orishas. Les orishas, c'est l'aspect spirituel de la nature. L'eau douce, par exemple, les rivières, c'est l'orisha Oshun. La mer, c'est l'orisha Yamanja. Le vent, c'est Yansa, qui amène l'orage. La lumière, la luminosité, c'est Oshala. Et c'est extrêmement vivant dans ces pays-là. Je me souviens, avec Patricia, on était à Bahia un jour, on a entendu des tam-tams, c'était vraiment, on est sorti sur la place de la petite ville, à Bahia. Et là, il y avait un groupe qui chantait, et c'était extraordinaire, parce que ils chantaient avec la samba, mais ils chantaient pas, voilà, ma belle est partie, je suis triste. Bon, c'est triste, on comprend bien, non, ils chantaient, voilà, ils chantaient pour les orishas. C'était ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui chantaient, voilà, pour l'orisha Oshala, par exemple, avec une sorte de richesse immense. Il y avait quelque chose, et toute la place, tout le monde était là, était dans ces chants, dans un rapport qui était autre que quelque chose d'intellectuel. Aussi à Bahia, d'avoir assisté à la fête pour la mer, la déesse Yemanja, l'orisha Yemanja, où tout le monde va apporter des fleurs à la mer, les marins partent en bateau pour offrir ceci, mais ils n'ont pas l'impression qu'il y a, je ne sais pas, il y a une sorte de fée qui est cachée au milieu de la mer, puis on va lui donner des fleurs. C'est un autre contact, c'est un contact avec la dimension spirituelle de la mer. Tout le monde. À quoi ces gens se relient, elle n'est pas vue comme simplement une source de revenus pour les pêcheurs. Il y a un immense respect qui va se développer. Et ce respect-là aussi, il nourrit spirituellement aussi les adeptes. Donc ce rituel auquel j'ai participé au Brésil avec ce chaman. Il m'avait demandé, on était une vingtaine, d'amener. C'était pour un orisha qui s'appelle Omulu, c'est l'orisha de la décomposition. Et il nous a demandé d'aller prendre dans la forêt des éléments de décomposition pour faire un autel. Un autel ici, mais avec ces éléments de décomposition, pas sur un arbre, c'était pas sur une table, pardon, c'était au milieu d'un cercle sacré. Donc, tout le monde est allé prendre des feuilles en décomposition, des vieilles poutres, quelquefois un bout de planche avec des clous rouillés, etc. Tout le monde est venu avec ces choses-là, des fougères rouillées, enfin rouillées, en décomposition, et puis on a fait cet autel comme ceci. Et tout d'un coup, ça avait une force extraordinaire. Il n'y a pas quelque chose de l'évocation de la décomposition, c'est triste, pas du tout. Il y avait quelque chose là dans le fait de s'être relié en allant dans la forêt pour être attentif à la décomposition et non pas aux belles petites fleurs, etc. Tout d'un coup, un lien particulier qui donnait un rapport à la nature qui était très différent. Une sorte de force de cet autel que nous avions fait, aussi fort que n'importe quel lieu spirituel établi avec des bâtiments durs depuis des siècles, en une matinée, avec des gens qui ne comprenaient pas grand-chose de ce qui se passait, mais qui étaient prêts à explorer. Donc ici, on est dans un rapport qui est très différent. Tout d'un coup, on s'intéresse à la nature, qu'est-ce qui se passe? Donc dans ce rapport, ce contact avec les orishas, pour reprendre le langage de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, comment ceci peut être rencontré, c'est pas simplement des sortes de légendes, ou bien on va se raconter des histoires, mais c'est quand même, puisque c'est les éléments, ici j'ai parlé de quelques éléments, de l'eau douce, de l'eau salée, par exemple, de l'air et de la lumière, bien la manière de se lier spirituellement à ces orishas, ça va évidemment être le fait de se relier à ces qualités en soi-même, découvrir cette qualité spirituelle de l'élément eau, etc., et qui fait que tout d'un coup, on va pouvoir se rendre compte qu'on est dans un contact particulier avec cette dimension spirituelle de ces éléments. Qui n'a plus rien à voir, évidemment, avec l'exploitation, et qui est nourrissant. Parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment aussi ce qui est nourrissant pour soi, dans ce rapport. J'expliquais avant avec le mendiant, comment c'est nourrissant pour les deux personnes, mais dans ce rapport aussi, c'est nourrissant. On a l'impression tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui s'harmonise en soi. C'est comme si les éléments qui étaient un peu chaotiques, tout d'un coup, ils retrouvent leur place en harmonie. Et il y a une sorte de tranquillité intérieure qui naît par la réorganisation de ces éléments simplement parce qu'on leur offre cet espace, parce qu'on est ouvert à les sentir de cette manière. Donc on peut très bien avoir un rapport à la nature. Et cet élément, ce que je décris ici, l'élément essentiel, c'est un rapport de présence. Il faut que je sois présent en moi-même, sentir ce qui se passe en moi-même devant, dans ce rapport à l'élément eau, à l'élément air, que je sente bien ce qui se passe en moi-même à ce moment-là, pour qu'il y ait quelque chose, une sorte de dialogue spirituel. Donc ça, c'est une manière d'explorer la présence dans un contexte particulier qui est enrichissant. Voilà pour dire le chemin spirituel, il peut être multiple. Et là, on ne s'éloigne pas d'une sorte de quête de liberté. Dans ce contact avec la nature qui me semble remet mes éléments en équilibre. On pourrait même imaginer que si après on devait méditer, on se rendrait bien compte qu'il y a quelque chose de complètement posé organiquement. On a un rapport qui n'est plus chaotique. Mille manières de cheminer spirituellement. va finir par une citation d'un maître hassidique. Alors, je me rappelle plus ou moins de la citation, mais je la trouve assez... Elle est drôlement formulée, mais je la trouve extrêmement intéressante et questionnante. Il disait, Dieu ne dit pas, ce chemin mène à moi et ce chemin ne mène pas à moi. Il dit, tout chemin mène à moi pour autant qu'il mène à moi. C'est intéressant. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait d'un chemin? Qu'est-ce que je fais moi de cette situation? Est-ce que je peux en faire quelque chose qui va dans le sens de la liberté? On pourrait dire que tout chemin aussi peut mener ailleurs. Est-ce que je peux prendre cette exploration-là, pour les personnes qui font, je ne sais pas, différentes activités, est-ce que je peux en faire pour moi un chemin qui mène à la liberté? Ou pas? Et ça dépendra de comment j'arrive moi-même à donner vie à ce chemin pour qu'il mène à la liberté. Je peux aussi très bien pratiquer la méditation sans que ça me mène à la liberté, si j'en fais une sorte d'enjeux différents. Voilà, donc, quelques remarques, un peu plus longues que je l'imaginais. Voilà, donc, je pense que vous pourriez faire maintenant une méditation en marchant pendant... Moi, je vous propose de faire une méditation en marchant pendant une demi-heure, parce que vous avez besoin d'air, là, après tout ces paroles, et puis ensuite revenir pour disons de 9h15 à 9h30 pour une méditation silence tous ensemble. Ça serait bien que vous puissiez le faire tous ensemble pour revenir quelque chose de tranquille. David qui sonnera le gong, avec Patricia on a aussi réglé quelques aspects pratiques, et puis les personnes qui veulent continuer évidemment continuer, mais revenez à ces 15 minutes en silence tous ensemble à 9h15 pour être tous ensemble dans une nouvelle période de silence, et puis préserver le silence pour cette dernière soirée jusqu'à demain matin au petit déjeuner pour retrouver un petit peu la tranquillité. Et puis aussi dans les bâtiments, si les personnes parlent, c'est extrêmement, extrêmement fort. Donc revenez un petit peu à la tranquillité. Profitez du silence parce que demain après-midi, c'est fini. Chez vous, pourrez essayer de faire un règlement. Voilà, maintenant, pendant le repas, une demi-heure de silence. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous avez de l'argent. Si vous êtes toute seule, d'accord, ça peut jouer avec d'arrêter la radio, la télévision, mais autrement, c'est très difficile. Donc profitez de cette opportunité extraordinaire d'être dans le silence. C'est un luxe fantastique. Voilà, donc goûtez-le encore jusqu'à demain au petit déjeuner. Voilà, donc David, tu devras bien se lever.